histoire, je vais parler un petit peu de l'e-sport, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau, avec un petit côté historique pour commencer, et puis ensuite, je reviendrai sur la question du sport, vraiment l'e-sport en question, hein, voilà, parce que l'e-sport, c'est vraiment un sport. C'est la grande question. Voilà, et pour finir, je parlerai un petit peu de. J'irai un peu plus loin sur la question de. Voilà, du corps aujourd'hui, voilà, la chair et l'esprit. Hein, voilà, discuter un petit peu de toutes les questions qu'amène le corps aujourd'hui, voilà, ça, par rapport justement à toutes les nouvelles technologies et tout ça. Voilà, j'essaie d'être pas trop long, de manière à ce que vous puissiez poser vos questions. Voilà, donc juste pour commencer à redire hein, quelques portes ouvertes. Voilà, redire que les jeux vidéo ne sont pas qu'un simple divertissement, sont vraiment devenus un lieu d'art et de culture. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui autour de ça. Un phénomène de société, parce qu'il touche la plupart des gens qui sont autour de nous, particulièrement les générations plus jeunes, mais pas que. Il y a pas mal de choses aussi qui se passent du côté des maisons de retraite. C'est très intéressant. Voilà, donc c'est un nouvel élément de notre histoire qui vient s'inclure et qu'il faut apprendre, qu'il faut apprivoiser en fait. La question, c'est un petit peu comment on en est arrivé là. Donc je vais commencer par un petit retour historique. Voilà, donc juste pour redire quelques repères, hein, comment ça a commencé. Donc la création du premier ordinateur date de 1942. Voilà, par Alan Turing, rappelle qu'il a créé son premier ordinateur dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale pour décrypter les codes allemands. Voilà, le célèbre Enigma allemand qui était censé être indécryptable. Voilà, bah, lui, il a réussi à le décrypter en créant une machine plus performante, plus puissante, qui s'avère être le premier ordinateur. Ce qui fait que dès les années 50, il y avait déjà des jeux vidéo, voilà, des simulations d'artillerie sur des ordinateurs qui pesaient à peu près une tonne. Voilà, pour 4 mètres de haut, vous voyez un peu les enjeux. Mais déjà là, il y avait des jeux vidéo, des jeux de simulation d'artillerie sur des petits écrans. Voilà, donc dès qu'on a inventé l'ordinateur, en fait, on a déjà inventé le jeu vidéo avec. C'est venu très vite. Pour les années 60, donc très vite, les choses se sont un petit peu développées avec des petits écrans. Alors, c'était des écrans avec des formes prédéfinies, comme pour une calculatrice, en fait. Voilà, et très vite, alors avec des grosses machines, hein, voilà, des salles d'arcade qui ont commencé, des petits jeux vidéo portables donc, qui s'échangeaient beaucoup, et puis des salles d'arcade, voilà. C'est des choses qui ont commencé à jaillir dans les années 60, à la fin des années 60, pour arriver, je vais assez vite, on y reviendra si vous voulez, dans les années 70, là, c'était les toutes premières consoles de jeux, hein, le célèbre Pong qui pouvait se brancher, la console de salon hein, qui se branchait sur la télé. Bon, arrivé dans les années 70, la plupart des foyers étaient équipés de télévision, ce qui fait que, ben voilà, on s'est mis aussi à y mettre des jeux, voilà, des jeux qui se jouaient sur l'écran, avec des manettes, et puis même des petits jeux portables. Voilà. Donc là, ça a vraiment pris un certain essor. Je me rappelle avoir joué à Pong quand j'étais petit, ça me plaisait déjà beaucoup. Mais c'est surtout dans les années 80 que sont arrivés les premiers jeux vidéo un petit peu, on va dire, sérieux. Alors, deux revues, hein, Joystick et Tilt, qui sont sorties en 1982, qui étaient exclusivement consacrées aux jeux vidéo. Voilà, et puis vous voyez des grands noms, hein, Donkey Kong, Jumpman, qui est devenu Mario. Alors, j'ai mis une image où vous le voyez un peu évoluer en pixels au fil des années, sur les 40 dernières années. Voilà, un Tetris, qui est un des premiers jeux vidéo russes. Voilà, un Arkanoid, l'arrivée des premières Game Boy, donc les jeux vidéo portables. Voilà, tout ça, ça a eu un succès assez phénoménal, en particulier auprès des jeunes et des enfants. On arrive aux années 90, et là, vraiment, il y a un premier déploiement avec donc un certain nombre de jeux. Donc les consoles se sont vraiment beaucoup déployées, hein. Vous avez quelques images, et puis quelques grands noms de jeux qui arrivent. Alors je cite Warcraft, que vous voyez en haut à droite, et puis Warcraft 2 que j'ai mis un petit peu au centre, Age of Empires et Starcraft. Donc tous ces jeux-là sont ce qu'on appelle des jeux de stratégie en temps réel, ils ne se jouent plus sur des consoles, mais sur des ordinateurs, parce que ce sont des jeux de gestion et de stratégie assez complexes et vite très compétitifs. Le principe est de gérer une base et de créer une armée pour aller attaquer l'autre. Voilà, donc soit de manière un peu historique, comme Age of Empires, ou de manière plutôt fantastique, comme les Warcraft ou Starcraft. De l'autre côté, les consoles se développent aussi beaucoup, hein. Vous avez les Tomb Raider, les Rayman, les Resident Evil. On voit déjà que les graphismes vraiment commencent à s'améliorer. Il y a un très très gros travail déjà dans ce domaine-là sur les graphismes. Les choses ont vraiment beaucoup évolué dans les années 90, c'est allé très très vite. Vous voyez, on est passé d'un petit Sonic que vous voyez en haut à un Age of Empires que vous voyez en bas. Voilà. Vous voyez un peu la différence de grain déjà du jeu avec le Final Fantasy VII de 97 qui était un jeu aussi assez renommé. On arrive dans les années 2000. Et donc là, c'est la révolution numérique. Élément important parce que c'est là que le jeu vidéo va s'exporter sur Internet. Voilà, donc vous voyez déjà les ordinateurs ont 10 ans. Hein. Tout en haut, j'ai mis, ils passent de 25 Go de mémoire à 500, de 8 Go de RAM à 2 Go. Enfin voilà, il y a une multiplication, vraiment la puissance et les capacités des ordinateurs sont décuplées. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quelques consoles aussi, hein, avec pareil, hein, vous voyez un peu la qualité des jeux qui augmente au niveau des graphismes, mais aussi au niveau des scénarios. J'ai mis au centre World of Warcraft, voilà, c'est le premier jeu de rôle massivement multijoueur. Alors un chiffre qui va peut-être vous effrayer, entre 2004 et 2011, donc juste sur quelques années comme ça, quand il a été lancé, 52 milliards d'heures, 6 millions d'années de jeu en 7 ans. Donc c'est assez vertigineux. C'est un jeu qui continue à très très bien marcher. Vraiment, c'est des millions de joueurs au travers le monde qui se retrouvent dans ce monde de Warcraft, qui est un monde médiéval fantastique, inspiré de Tolkien, avec ben, des elfes, des nains, des trolls, et ainsi de suite. Voilà. Et vous avez enfin, en bas à droite, l'arrivée de l'Oculus Rift. On met carrément un casque sur la tête et on est plongé dans le jeu. Donc là, c'était les premières ébauches qui fonctionnaient pas tout très très bien au début, mais voilà, les premiers Oculus sont arrivés à la fin des années 2000. Là aussi, vous voyez un petit peu la vitesse avec laquelle les choses se sont développées, la multiplication des supports, la puissance des ordinateurs. Et vous voyez, quand on arrive dans les années 2000, bah, ça continue. Hein, voilà, ça ne s'arrête pas. On passe, voilà, vous voyez un peu la tête des ordis dans les années 2010 et vous les voyez aujourd'hui, voilà. En haut à droite, moi j'ai un ordinateur qui ressemble un petit peu à ça. Voilà. Donc là, vraiment, avec les jeux Internet, arrivent évidemment bah, les téléphones portables. Bien sûr, on se met à beaucoup jouer sur les téléphones portables. Très très bon avenir. Voilà. Vous voyez que là, le graphisme des jeux, j'ai mis en bas hein, GTA V qui est sorti en 2013, Red Dead Redemption 2 qui est sorti en 2018. Voilà, des jeux vraiment extraordinaires où vous explorez le monde avec une qualité graphique extraordinaire. Et puis, on entre vraiment dans les jeux de compétition. Au niveau mondial, alors je vous ai mis deux titres, League of Legends, jeu sorti en 2010, qui est un MOBA, un jeu d'arène sur StarCraft 2. Alors vous avez un peu au niveau du centre, voilà StarCraft 2, à quoi ressemblent les stades où se déroulent les tournois. Voilà, c'est là qu'on arrive sur l'e-sport. Hein, voilà, au niveau mondial, avec des millions de gens qui suivent. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses un peu nouvelles. Il y a maintenant des stades avec des écrans hein, qui ont été conçus exprès dès les années 2010 pour l'e-sport. Donc c'est là vraiment qu'on arrive à une dimension très. Alors déjà avant, il y avait beaucoup de compétitions, de choses comme ça, mais c'était à un niveau assez restreint. Et là, par contre, on arrive vraiment à un niveau mondial. Avec des équipes, hein, on a une équipe de France, de StarCraft 2, qui s'en sort pas trop mal, voilà, qui a gagné plusieurs championnats du monde. Donc c'est aussi intéressant. On arrive aujourd'hui à un très très grand déploiement du jeu sur les téléphones portables. Très très bel avenir, là, un peu dans l'avenir du jeu. Dans les années 2020, donc vous voyez, hein, on est passé vraiment des caves et des garages au grand stade, aux grandes conventions. Hein, vous voyez un peu tous les écrans alignés. Vous voyez aussi les ordinateurs, donc les téléphones portables qui ont ben, un très très grand développement. Voilà, donc ça c'est vraiment le monde de l'e-sport, le monde des jeux vidéo aujourd'hui, qui fonctionne avec des grands rassemblements qui rassemblent des milliers et des milliers de personnes, sans compter celles qui sont connectées. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la vitesse, la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Hein, voilà, aujourd'hui, donc on est passé en 40 ans, on est passé des caves et des garages qui réunissaient des petits groupes de personnes à des gymnases où il y avait une centaine, voire plusieurs de centaines de personnes. Bon ben, aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans les stades. Le jeu vidéo est dans les stades, c'est l'e-sport. Hein, voilà, il y a vraiment un certain nombre de critères qui permettent de définir ses capacités dans le jeu. Je vous donne un exemple, les APM, actions par minute. On arrive maintenant, après chaque partie en ligne, on peut voir un petit peu quelles ont été nos compétences, nos performances vidéoludiques. Les champions du monde peuvent dépasser les 300 APM, voilà, 300 actions par minute, ce qui est vraiment quelque chose d'assez phénoménal aussi. Ah oui, je précise aussi, il y a plusieurs centaines de millions de vues hein, lors des matchs de grande envergure international, voilà, c'est quelque chose aussi de très suivi, mais c'est suivi en ligne, c'est pas suivi à la télé. Donc voilà un petit peu, hein, c'est assez rapide, c'est assez vertigineux, mais ça vous montre comment les choses se sont accélérées, se sont décuplées. Je pense que c'est intéressant de voir comment aussi on en est arrivé là. Et arriver à la question, parler un petit peu de l'e-sport. Voilà. Alors évidemment, la première question, c'est on se dit, l'e-sport, c'est pas du sport. Hein. On est assis derrière son écran, c'est pas sportif. Souvent, on définit le sport avant tout comme une activité corporelle. Mais quand on creuse un petit peu, on se dit, ah tiens, il y a quand même des éléments qui font qu'on se pose un peu des questions. Parce qu'on peut voir qu'il y a eu, dans l'histoire des Jeux Olympiques, on a vu parfois, alors c'était pas tout le temps, hein, mais on a vu apparaître du tir à l'arc, de la course automobile, du bowling, du billard, du golf, et même des échecs, et même le bridge, qui ont été considérés comme des sports de démonstration dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc reconnus comme tels, hein, vraiment, comme sport, par le Comité International Olympique, le CIO. On les a c'était soit de manière provisoire, soit des sports olympiques de type 2, de type un peu secondaire. Mais ce sont des choses qui ont vraiment existé déjà tout au long du XXe siècle. Dès le début du XXe siècle, il y avait effectivement les courses de ballon, voilà, de montgolfière aussi, enfin des choses comme ça. Il y a eu énormément de choses qui se sont produites, qui n'étaient pas vraiment physiques ou corporelles. Le jeu de boules aussi dans les années 1920 était un jeu olympique. Déjà, ça permet d'apporter une première nuance, de se dire, quand on parle de sport, ce n'est pas uniquement une dimension corporelle, uniquement une performance physique. Alors, il y a tout un courant hein, depuis Internet, en fait, depuis une vingtaine d'années, qu'on qualifie dans notre jargon de courant hygiéniste. Pour être un peu provoque, moi, je les appelle les intégristes, qui continuent à dire non, pour le sport, c'est uniquement physique, uniquement corporel, et qui ne considèrent pas tous ces sports de type 2 comme de vrais sports. Et bien sûr, ils militent, tous ces gens-là, pour que les Jeux Olympiques reste vraiment dans la tradition sportive d'une activité corporelle, d'une performance physique. Alors ça, c'est un petit peu l'e-sport en débat depuis une vingtaine d'années. Dès qu'il est arrivé, en fait, les hygiénistes qui disent non, ça me donne. Alors du coup, on va interroger le CIO, voilà, et quand je regarde les critères du CIO pour que le sport soit vraiment considéré comme un sport, et même un sport olympique, voilà, il y a 6 critères. Et étrangement, les jeux vidéo collent à tous ces critères-là. Premier critère, les caractéristiques techniques. Donc là, je le dis tout à l'heure, il y a vraiment aujourd'hui, le jeu vidéo s'est professionnalisé. On peut mesurer les performances, on peut les développer, on peut avancer. Voilà, on va travailler le temps de réaction, on va travailler la précision, la réflexion, la dimension stratégique, et puis surtout aussi la dimension coordination d'équipe. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui se jouent en équipe, et comme un certain nombre de sports d'équipe, il faut vraiment une grande coordination. Donc tout cela donne des compétences très techniques aux jeux vidéo, qui entre ainsi dans les caractéristiques techniques de la CIO. Ensuite, il y a la dimension historique. Si un sport n'entre pas dans l'histoire, il est trop marginal pour être aux Jeux Olympiques. Alors évidemment, pour l'instant, un jeu vidéo, on va dire que c'est un peu jeune, mais on voit bien avec le nombre d'adeptes qui se comptent aujourd'hui en millions et surtout dans le monde entier, que ce sont des choses qui sont vraiment... Le vent est en poupe de ce côté-là. L'universalité, même raisonnement. On voit que dans tous les pays du monde, même dans certains pays en voie de développement, il y a des jeux vidéo, il y a des équipes qui se mettent en place. Voilà, quelques chiffres. En 2021, la France avait déjà 915 joueurs d'e-sport. Ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui, hein. Donc, ils ont 2 ans, mais ça passe. Aux USA, 3630. Mais voilà, je vois qu'il y en a beaucoup au Brésil, beaucoup en Corée du Sud. Alors, en Corée du Sud, c'est un peu le sport national, hein. Comme nous, le foot, eux, ils ont les jeux vidéo. Voilà, la Chine, la France, la Suède, pour l'Europe. Voilà. Donc, il y a une très bonne couverture mondiale des jeux vidéo. La popularité, donc là, c'est tout ce qui est vente de billets, couverture télévisée, site internet, sponsor. Si on sait très bien que si un sport ne concerne qu'une petite partie de la population, il n'est pas éligible aux Jeux Olympiques. Voilà. Mais là, on voit avec des sites internet spécialisés, hein, sur l'e-sport, on dépasse maintenant en 2014, voilà, on dépassait les 200 millions de visionneurs et en 2017, les 400 millions. Donc, en 3 ans, on a doublé aujourd'hui, on doit être nettement au-dessus. Je pense qu'on arrive à des chiffres nettement au-dessus. Donc la popularité, c'est bon aussi. L'image, alors l'image, c'est tout ce qui est transparence, hein, équité, égalité des sexes, attrait, impact sur l'environnement, lutte contre le dopage, ainsi de suite. Voilà, on sait que ce sont des sujets qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Au siècle dernier, on sait bien que le gamer était considéré comme un geek, hein, vous savez, le sociopathe introverti, mal dans sa peau, voire complètement addict, complètement drogué aux jeux vidéo. On sait bien que si un sport véhicule une image négative, il n'est pas éligible aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on voit, hein, c'est exactement l'inverse. Les joueurs de jeux vidéo professionnels, ils ont le style de vie tout à fait semblable aux athlètes professionnels. Hein, voilà, hygiène de vie, strict, entraînement quotidien. Voilà. Quand on discute avec des joueurs de jeux vidéo professionnels, ils ont exactement le même style de vie que les athlètes d'aujourd'hui. Voilà. Puis le développement futur de la fédération, à mon avis, là, c'est très clair que il y a des perspectives d'avenir qui sont assez extraordinaires avec le fait de continuer à développer les technologies, je pense en particulier à tout ce qui est réalité virtuelle, au niveau des casques et des jeux vidéo maintenant qui se font en mouvement. Donc on met le casque, on a des manettes et puis on va bouger sur un terrain défini. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer aussi. Donc on est vraiment passé à quelque chose qui convient tout à fait aux critères du CIO. Donc aujourd'hui, on est vraiment à dire que l'e-sport, c'est bien un sport. Voilà. Alors, ce n'est pas un sport d'abord physique, hein, ce n'est pas une activité d'abord corporelle. Il y a effectivement toute la dimension, on va dire, plutôt intellectuelle, d'esprit, mais il y a quand même derrière le corps qui doit suivre. Je termine avec la troisième partie, réfléchir un petit peu justement sur le corps aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'e-sport relance la question du corps. Voilà, la question de l'articulation entre la chair et l'esprit, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question qui va ouvrir à la limite du corps humain aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, les limites du corps humain sont remises en question. Voilà, donc j'ai mis, hein, entre les humains et les animaux, aujourd'hui, avec une vague très militante, avec un idéal d'égalité entre hommes et animaux, une vague antispéciste, voilà, qui dit, ben non, il faut. Les hommes et les animaux, c'est la même chose, il faut tout pallier. On peut dire aussi que le cerveau fait partie du corps. Voilà. Donc, il n'y a pas d'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps. J'ai envie de dire, il y a cette idée d'unité dans une personne humaine. La question humain-machine, voilà, pareil, hein, avec le transhumanisme, avec tous les progrès de la médecine et des techniques qui posent beaucoup de questions bioéthiques là aussi. Voilà, alors je ne m'engage absolument pas dans ces débats, hein, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la question d'interroger le corps. Interroger le corps et dans son articulation avec l'esprit, avec la dimension intellectuelle, cérébrale, cette dimension de machine, de technologie, ça pèse aussi dans la balance. Et puis bien sûr, aujourd'hui, hein, les limites du corps humain entre hommes et femmes, avec toutes les théories du genre, la multiplication d'une manière d'être vis-à-vis de sa sexualité ou de sa sexuation. Voilà, c'est toujours des questions extrêmement complexes. Donc aujourd'hui, on évolue vraiment dans une époque, dans un monde où la question du corps est remise en question. L'e-sport doit vraiment se replacer dans ce contexte où on interroge le corps. Je précise bien, je dis tout ça sans aucun jugement de valeur. Voilà, je constate aujourd'hui, quand je discute avec beaucoup de gens, en particulier dans les grandes conventions de jeux vidéo, mais aussi de tatouage, parce que le tatouage interroge le corps aussi, il y a vraiment, c'est vraiment un tout. On ne peut pas dissocier l'e-sport de la question de l'époque dans laquelle il vient, où on remet les limites du corps en question. Et je termine avec la sempiternelle question d'addiction. Voilà, parce qu'effectivement, quand on parle de corps, Et quand on parle, voilà, le fait de cette dimension un petit peu de drogue, hein, voilà, où on va être dépendant d'une activité, hein, dépendant des jeux vidéo. Donc, c'est bien de pouvoir terminer en redisant les critères de l'addiction. Aujourd'hui, tout le monde va hurler à l'addiction dès que quelqu'un passe un peu de temps, un peu trop de temps sur les jeux vidéo. Vous voyez que c'est un critère parmi d'autres. Pour qu'il y ait addiction, donc il y a cinq critères. Et sur les cinq critères, il en faut au moins trois. Voilà, s'il y en a trois, il y a addiction moyenne, quatre addictions fortes, et si on a les cinq, là, il y a vraiment une addiction très forte. Voilà, donc le premier critère, c'est l'augmentation du seuil de tolérance. Là encore, hein, c'est une question purement corporelle, on le sait sur le plan médical, quand on prend beaucoup de médicaments, le corps s'adapte. Voilà, donc là, il y a ce qu'on appelle un dérèglement du seuil de la récompense. Donc là, il y a toute une dimension un peu neuroscientifique derrière. Comme les jeux vidéo, c'est une très très grande activité cérébrale, ça va entraîner beaucoup de choses sur le plan neurologique. Ce sont des choses qui sont étudiées aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a des choses très bonnes, hein. Il n'y a pas que des choses mauvaises, on ne va pas parler que de l'addiction. Je prends l'exemple des maisons de retraite en Allemagne, deux maisons de retraite un petit peu expérimentales, où on a remplacé les télévisions par des ordinateurs et des jeux vidéo. Et il s'avère qu'il y a vraiment un certain nombre de recherches par rapport à la maladie d'Alzheimer et ainsi de suite. Voilà, la stimulation cérébrale qui est vraiment excellente, contrairement à la télévision. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Voilà. Alors bien sûr, quand on abuse un petit peu je reviens à cette addiction, hein, de seuil de tolérance, quand on abuse de toutes les hormones de plaisir qui sont provoquées par les jeux vidéo, voilà, il y a le seuil de tolérance qui augmente. Donc ça, c'est un signe d'addiction. Voilà, le changement d'humeur, ça, c'est ce que voient beaucoup de parents par rapport à leurs enfants ou leurs adolescents. Ben, ça touche un petit peu cette question de la récompense. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde. Voilà, on est vraiment dans. Il faut vraiment un stade. Alors, ça, c'est moi qui fais de la plongée. Hein. Voilà, on ne remonte pas comme ça. Il faut dépanner, il faut prendre un peu de temps. Voilà. C'est bien de savoir comment accompagner des gens qui jouent à des jeux vidéo. Ça peut être extrêmement brutal sur le plan cognitif, sur le plan cérébral, de quitter un jeu comme ça pour revenir au monde réel, on va dire ça comme ça. Donc, pouvoir justement travailler à ça, il y a un certain nombre de choses. Bien sûr, l'agressivité, quand elle devient vraiment trop forte, est alors un signe d'addiction. Voilà, je parlerai aussi de la saillance. Voilà, la saillance, c'est la concentration sur une activité au détriment du reste. Voilà, c'est quand on ne pense plus qu'à ça. C'est-à-dire que le temps passé à une activité, voilà, c'est pas tant le temps passer à jouer à des jeux vidéo qui va montrer la dépendance que le fait d'y penser en permanence. Ce qui va bien sûr jouer un rôle majeur sur la concentration à l'école ou au travail. Donc là, il y a quelque chose d'important. La gestion du sommeil, hein, voilà, c'est une bonne façon de voir ça. Voilà, donc le temps passé, voilà, effectivement, c'est intéressant de pouvoir, là, on peut, hein, avec une horloge, je vous montre, on peut mesurer le temps passé. Le temps que l'on passe sur les jeux vidéo et le comparer aux autres activités. Un très bon exercice que je propose à beaucoup de jeunes et même de moins jeunes que j'accompagne pour relire un petit peu son rythme de vie quotidien. Et puis donc la rechute après abstinence, hein, voilà, c'est bien de regarder est-ce que je peux me sevrer, c'est une journée, deux journées, trois journées, est-ce que justement j'ai trop de saillance, je vais y revenir très vite, ou est-ce que en me sevrant j'ai pensé qu'à ça, ou est-ce que non, c'est bon. Ce sont des éléments qui permettent de réfléchir un petit peu à cette question d'addiction quand on est vraiment trop pris par l'activité. Ce qui fait que quand je regarde tout ça, je dis tiens, c'est marrant parce que je reviens à la question du sport. On peut être addict au sport. Voilà, ça c'est quelque chose qui a aussi été éprouvé. Sur le plan médical, voilà, il y a des jeunes qui sont addicts au foot ou à d'autres activités sportives parce qu'il y a 2, 3, 4, voire 5 critères de cette addiction qui viennent. Donc l'addiction n'est pas réservée bien sûr qu'aux jeux vidéo ou à la drogue. Voilà, on peut être addict d'un sport. Voilà, c'est moins fréquent, mais ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Ce qui permet de faire un lien supplémentaire entre le sport comme activité psychocorporelle et l'e-sport. Voilà, je termine en disant, ben, voilà, en insistant sur cette question de la révolution numérique. Là, c'est plus pour prendre un peu de distance par rapport à tout ce que j'ai dit. Dans notre monde de l'Église actuelle, je me dis qu'on n'a pas encore pris de bien conscience de cette révolution numérique. Il y a eu un avant, un après. Voilà, la dimension initiatique, hein, aussi que cela suppose. Voilà, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans? La question de être chrétien dans le monde dans lequel on vit et à l'époque dans laquelle on vit. Je me dis, c'est voilà, pareil, hein, il n'y a aucun jugement, c'est juste une invitation à creuser un petit peu. Voilà, ça soulève des questions que je trouve extrêmement intéressantes, mais aussi extrêmement importantes. Je crois qu'on aurait tort de passer à côté, à la fois pour la crédibilité du message de l'Église aujourd'hui, mais aussi tout simplement sur une question pastorale. Je crois que c'est un nouveau continent qui s'ouvre, et il y a une bonne ouverture et des bons lieux de pastorale nouvelle un petit peu à inaugurer, à découvrir. Voilà, donc je pense que toutes ces questions sont pertinentes aujourd'hui. Voilà, cette question du sport, elle reste un peu ouverte, hein, voilà, tout ça, ça reste très ouvert, et ça nécessite, je pense, un petit peu de travail aujourd'hui. Donc merci de vous pencher sur la question.